Et nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Noël, je pense qu'on est déjà tous en train de le préparer. Il y a pas mal de choses à programmer. Il faut poser des congés si on veut pouvoir partir un petit peu dans les familles. Ou alors, est-ce que c'est les familles qui viennent chez vous? En tout cas, il faut se mettre d'accord, poser des dates, préparer des repas, élaborer des menus, choisir des cadeaux. Je suis en plein dedans. Si vous avez des idées, je suis preneur. C'est toute une logistique, c'est toute une préparation, c'est toute une attente. Mais tout le côté matériel mis de côté, eh bien, ce dimanche, nous entamons un temps d'attente aussi spirituel. Le mot « avant » vient du latin « adventus ». Voilà, ça s'écrit « A-V-E-N-T » et pas « A-V-A-N-T ». Ce n'est pas les semaines avant la venue de Jésus, mais ça veut dire « adventus » signifie « la venue », tout simplement. Le temps de l'avant, c'est le temps de l'attente de la venue. L'avant, c'est un temps de réflexion biblique, un temps de préparation spirituelle, au souvenir de cet événement si important pour la foi chrétienne, la naissance de Jésus, la naissance du Christ. Alors, durant les deux manches à venir, nous serons conduits progressivement vers le jour J, en repensant à toute l'importance de cet événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, pour débuter cette période de l'Avent, j'ai voulu essayer un exercice que j'avais encore jamais fait, une prédication un peu plus narrative. J'aimerais simplement vous raconter l'histoire de cette attente. En nous souvenant de cette attente qui a été très longue avant la venue du Christ, nous pourrons nous repenser également, nous pourrons repenser à nos attentes de vie, à comment nous les vivons et à comment cette attente-là, très longue, peut venir nous encourager peut-être dans les moments d'attente que nous vivons dans tout un tas de domaines. Et pour accompagner cette histoire, j'avais envie d'illustrer tout ça par quelques tableaux qui seront projetés. Ça, c'est mon épouse qui a fait des études d'histoire de l'art, ça déteint un petit peu. Merci à elle, je ne m'y intéressais pas du tout avant. Elle m'a mis un peu les mains dedans. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter tout simplement l'histoire de cette attente, illustrée par des œuvres que certains artistes ont eu à cœur de produire au sujet de cette histoire et de la parole de Dieu. Alors cette histoire débute avec Dieu, un Dieu immense, un Dieu infini dans tout ce qu'il est, un Dieu qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien, mais qui décide simplement par amour de donner la vie à une créature faible, une créature limitée, l'être humain. Et cet humain, Dieu le place dans un écrin de perfection, dans un monde rempli de beauté où l'humain pourra jouir de tous les bienfaits de Dieu. Et le plus grand des bienfaits que Dieu accorde à l'humain, à cette créature, c'est d'avoir une relation directe, intime et parfaite avec son Créateur. Le Créateur en relation avec sa créature, l'humain en dialogue avec son Dieu, un cadeau magnifique dans un monde parfait. Mais cette histoire se poursuit. L'être humain est heureux, comblé, mais en veut toujours plus. Il veut prendre en main les rênes de sa vie. Il veut pouvoir décider lui-même de ce qui est bien ou mal pour lui. Il veut devenir comme Dieu, prendre sa place. La créature envie son créateur. Alors l'humain désobéit, se rebelle et rejette son Dieu. Il rejette l'autorité de Dieu. Il détruit le cadeau si précieux qui lui avait été fait. Il met fin à la relation parfaite qui l'unissait à Dieu. L'humain pensait se hisser à la place de son Créateur. Eh bien, il n'a fait que se perdre lui-même. En refusant son Dieu, il se retrouve seul. Seul face à la vie, seul face à la mort et seul face à l'éternité. Mais Dieu réagit aussitôt. « Non, je ne laisserai pas l'humain seul face à ses erreurs. J'ai un plan et je vais le mettre en action dès maintenant. » Et voici ce qu'il dit au diable, à l'accusateur, au prince du mensonge qui avait entraîné l'humain dans l'erreur. En Genèse chapitre 3, verset 15, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » L'humanité était unie en Dieu, maintenant elle sera divisée. D'un côté, la descendance de l'accusateur en rébellion contre Dieu, mais de l'autre aussi, un peuple qui appartiendra à Dieu, un peuple avec qui cette relation perdue pourra être restaurée. Mais quand ? Comment ? Quel est ce plan de Dieu pour restaurer la relation brisée ? Dieu nous dit déjà que de la descendance de la femme doit naître un sauveur qui écrasera l'accusateur, qui délivrera le peuple de Dieu, qui restaurera la relation avec le Créateur. Alors dès ce moment-là, nous voici dans un temps de l'avant, dans l'attente d'une venue. Quand notre Dieu enverra-t-il ce sauveur ? Jusqu'à quand cette relation restera-t-elle brisée ? Les attentes de notre vie peuvent être pénibles. Attendre, c'est être incertain de ce qui arrivera. Attendre, c'est espérer sans savoir vraiment. Attendre peut rimer avec impatience, angoisse, désespoir, déception aussi. Nos vies sont faites d'attentes incessantes. Attendre la fin de nos études avant de pouvoir travailler, mais quelle assurance d'avoir un emploi ou d'en être satisfait. Attendre de rencontrer celui ou celle qui partagera notre vie, mais quelle assurance de rencontrer la bonne personne. Attendre le repos bien mérité de la retraite après une vie de labeur, mais quelle assurance que ce repos ne finisse pas en isolement, en solitude. Attendre la venue de la fin de notre vie, et puis attendre quoi ensuite ? Nous ne savons pas. Sans Dieu, l'attente finit toujours par l'inconnu et, admettons-le, par l'angoisse. Il n'y a qu'en Dieu que l'attente est différente, car attendre un bienfait promis par le Dieu Tout-Puissant ne conduit jamais à la déception, mais toujours à la réalisation de la chose promise, à la joie de voir s'accomplir les promesses de Dieu, à l'émerveillement face à l'amour et la grandeur de notre Créateur. Mais nous avons quitté notre histoire et nous y revenons. L'humanité divisée attend celui que Dieu a promis, celui qui doit rétablir la relation avec Dieu. L'humanité continue sa route, loin de Dieu. Puis Dieu appelle un homme, un dénommé Abraham. Il bénit cet homme, il lui donne des victoires sur ses ennemis, il le comble de biens, il lui promet un pays. Dieu a avec Abraham une relation bien plus profonde qu'avec tous les autres humains de son temps. Alors est-ce que cet homme serait-il celui que Dieu avait promis ? Celui qui doit restaurer la relation qui a été brisée ? Eh bien non, ce n'est pas lui. Dieu révèle à Abraham que la réalisation de la promesse ne sera pas de son vivant. Lui n'y assistera pas. Alors l'attente dure encore. Déception ? Non, car Dieu renouvelle à Abraham la promesse qu'il avait faite. En Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Le plan de Dieu se précise. Le sauveur à venir devait être de la descendance de la femme. Admettons-le, c'est un peu vague. Maintenant, le Créateur annonce à Abraham que le sauveur viendra dans sa descendance à lui. Et pour l'éternité, Dieu promet de rétablir la relation qui a été brisée. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. L'attente se précise, mais elle dure toujours. Et toujours cette attente se fait pour Abraham, elle se fait dans l'assurance de la toute-puissance de Dieu. Dieu promet. Alors, l'attente d'Abraham est sereine, car lorsque Dieu promet, Dieu fait. L'attente n'en est pas moins longue, c'est vrai, mais enfin nous pouvons attendre dans la paix. Dieu n'a pas oublié sa promesse, il la rappelle, il la renouvelle, il la précise, et l'attente peut alors se poursuivre. D'Abraham naît un peuple qui se multiplie selon la promesse de Dieu, ce peuple se développe, un peuple que Dieu délivre d'une famine grave en l'envoyant en Égypte pour y trouver de la nourriture, mais un peuple qui devient alors esclave des Égyptiens. Le peuple de Dieu souffre. Il souffre tellement qu'il désespère, il n'attend plus rien. Dieu semble l'avoir abandonné, avoir oublié la promesse faite à Abraham. Dieu appelle alors un homme, Moïse. Il envoie cet homme pour délivrer son peuple de l'esclavage. Moïse réalise des prodiges, des miracles comme jamais la terre n'en avait connu. Il parle à Dieu face à face. Il vit pleinement avec Dieu la relation qui avait été brisée. Par lui, Dieu fait une alliance avec son peuple et la restauration totale de la relation semble bien partie. Serait-ce enfin celui que Dieu avait promis depuis le commencement ? Non. Il y a une alliance faite de lois, de directives à suivre. C'est déjà mieux que rien, mais si une si longue attente doit conduire à ça, nous sommes un petit peu déçus, il faut l'admettre. Mais là où nous pourrions perdre espoir, Dieu renouvelle encore sa promesse. Il nous rappelle que ce qu'il a promis se réalisera sans erreur et sans déception. Il promet à Moïse, en Deutéronome chapitre 18, « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Un autre que Moïse viendra dans ce peuple qui descend d'Abraham, quelqu'un qui sera comme Moïse, faisant des miracles, parlant à Dieu face à face, mais qui sera plus grand que Moïse, car il ne viendra pas établir une relation faite de loi, mais une relation d'amour, de cœur et d'esprit. Par son alliance avec Abraham, Dieu avait commencé à accomplir sa promesse. Il s'était choisi un peuple. Par son alliance avec Moïse, Dieu a aussi partiellement accompli la promesse. C'est son peuple et il est leur Dieu. Mais la relation parfaite n'est toujours pas rétablie. Si j'attends un événement avec impatience, lorsque le jour J arrive, je peux être comblé ou déçu, suivant ce qui arrive. Je peux me former à un emploi avec impatience et être déçu par la réalité du terrain, du monde du travail. Je peux attendre le repos bien mérité de la retraite et n'y trouver finalement qu'ennui, longueur de temps, solitude. Nous attendions une relation parfaite, rétablie avec Dieu, et nous n'avons en Moïse qu'un ensemble de lois. Mais souvenons-nous, Dieu ne déçoit jamais lorsqu'il promet un bienfait. La déception vient juste de ce que le jour J n'était pas encore arrivé. L'attente dure toujours, mais Dieu ne laisse pas le désespoir s'installer. Il renouvelle sa promesse et il la précise encore un peu plus. Le peuple attend toujours. Il s'installe dans un pays que Dieu lui donne. Il essaie de respecter les lois que Dieu lui a données. Mais comme l'attente dure, dure et dure encore, eh bien le peuple oublie, il se lasse. Il abandonne, il baisse les bras. Alors Dieu appelle un homme, David. Il le nomme roi de ce peuple. Dieu est avec lui, il lui donne la victoire sur de très nombreux ennemis. Moïse était prophète. David est roi et prophète. Il règne sur le peuple, mais il vit aussi une relation parfaite avec Dieu. Serait-il celui que Dieu avait promis ? Non, car David veut bâtir un temple en l'honneur de Dieu pour que le peuple puisse venir dans ce temple retrouver une relation parfaite avec Dieu. Mais Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Ce n'est pas toi qui rétabliras la relation parfaite entre mon peuple et moi. encore une occasion de déception. Mais nous l'avons vu, Dieu ne laisse pas l'humain se décourager. Au contraire, à chaque fois que la déception pouvait être là, Dieu renouvelle sa promesse et il s'y fait de même avec David. En effet, après lui avoir interdit de lui bâtir un temple, Dieu lui annonce ceci en 2 Samuel chapitre 7. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » La promesse se renouvelle, la promesse se précise encore. Le Sauveur devait venir de la descendance de la femme, puis de la descendance d'Abraham. Maintenant, nous apprenons qu'il viendra de la descendance de David. Le Sauveur devait être un prophète comme Moïse. Maintenant, Dieu nous annonce qu'il sera aussi un roi qui règnera sur le peuple de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Le Sauveur devait être un homme. Dieu nous annonce maintenant qu'il sera en réalité le Fils de Dieu en personne. Il nous annonce que son Fils viendra pour nous dans une chair humaine. Par amour pour nous, Dieu s'humiliera jusqu'à prendre la condition humaine. Il sera notre Sauveur, il sera notre Roi et il sera notre Dieu. Il rétablira la relation parfaite que l'humain avait rompue. David voulait construire un temple pour Dieu et pour que le peuple, en un lieu, puisse venir rétablir la relation avec son Dieu. Dieu ne le lui permet pas, ce n'est pas son rôle. Mais Dieu lui renouvelle sa promesse, il la précise encore, elle devient plus glorieuse que tout ce qui avait été annoncé auparavant. David alors n'est pas déçu, au contraire il est émerveillé. Et voici ce qu'il dit dans son bonheur immense après avoir entendu la promesse faite par Dieu. « Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur Éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur Éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur Éternel, cela sied-il à un humain ? Que pourrais-je te dire de plus ? Seigneur éternel, tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. » Quelle magnifique manière de vivre une attente, en louant la gloire de Dieu, en louant sa fidélité, en lui proclamant notre amour. Est-ce que toutes nos attentes de vie sont vécues comme ça ? Toutes les attentes de ma vie n'ont pas été vécues comme ça. Mais l'exemple du roi David est là pour nous encourager. Oui, dans nos attentes de vie, Dieu restera fidèle. Oui, dans nos attentes de vie, Dieu veut venir nous rassurer. Dieu veut venir nous encourager pour que tout à nouveau nous puissions nous placer devant lui afin de lui rendre gloire et de lui déclarer notre amour et notre reconnaissance comme David le fait dans ce texte. Alors notre histoire ne finit pas comme ça. Vous et moi savons ce qu'il en est de la suite. Dieu finalement a envoyé son fils Jésus. Il est né de la descendance de la femme, comme Dieu l'avait promis. Il est né de la descendance d'Abraham, comme Dieu l'avait promis. Il était prophète comme Moïse, mais plus grand que Moïse, comme Dieu l'avait promis. Il était de la lignée de David, roi pour toujours sur son peuple, comme Dieu l'avait promis. Selon sa promesse, Dieu a envoyé Jésus pour sauver son peuple, pour effacer nos fautes qui nous séparaient de Dieu, pour réparer la relation qui avait été brisée, pour construire à Dieu un temple, mais pas un temple localisé en un endroit comme celui que David voulait construire, un temple fait d'êtres humains partout sur cette terre, ce temple qui est l'Église, l'ensemble des croyants et le Christ, ce Sauveur est alors le roi de ce peuple, ainsi que son Dieu, et ceci pour l'éternité. Dans notre histoire, l'attente dure et dure et dure encore. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, plus de 1800 ans se sont écoulés. Trouvez-vous vos attentes de vie si longues à côté de celle-ci? Que d'occasion de perdre espoir en 1800 ans d'attente. Mais Dieu, toujours, régulièrement, constamment, nous réconforte dans notre attente. Il nous assure tout à nouveau de sa fidélité. Il nous a promis un sauveur, il a envoyé son Fils. Il nous a promis de rétablir la relation brisée, il nous a pardonné nos fautes et nous a donné son esprit pour vivre cette relation intime avec lui partout où nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, notre attente dure toujours, car il nous a promis le retour de son Fils. Et depuis bientôt 2000 ans, nous l'attendons. En ce premier dimanche de l'Avent, ces quelques semaines d'attente que nous voulons parcourir ensemble, souvenons-nous avant tout de la fidélité de Dieu. Ne vivons pas nos attentes dans la crainte, mais dans la paix. Ne vivons pas nos attentes de vie dans l'angoisse. Ne fixons pas non plus sur Dieu des attentes injustes qui pourraient nous amener à la déception. Mais recherchons avant tout la volonté de Dieu pour que nos attentes soient justes à ses yeux. Et alors, en nous attendant à la volonté de Dieu, soyons rassurés par tout ce que la Bible nous raconte. Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses. Il le faisait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera jusque dans l'éternité. Amen.